Un ensemble majeur spécial aujourd'hui, puisque vous le savez, nos antennes RFI et France 24 vous l'ont annoncé. Notre confrère Amobe Mevege a rejoint la terre des ancêtres il y a quelques jours. Dans confrère, il y a frère, et c'en était un pour moi. Nous échangions régulièrement sur cette Afrique, sur notre Afrique qu'il cultivait, un peu comme un jardin en devenir permanent et exigeant. C'est assez tard que j'ai découvert en fait que derrière le producteur-animateur téléradio ultra doué, il y avait en fait un cinéaste qui attendait son heure, qui travaillait, on en discutait souvent, car on sentait que le temps pressait. Pour cet hommage sur RFI, Ensole Majeur a ressorti de ses tiroirs cette conversation enregistrée il y a déjà 11 ans, en 2009, dans une belle humeur de partage. Merci à Mobé de nous avoir fait rire, rêver et réfléchir.
Un sol majeur.
Sol majeur.
Un sol majeur. Yasmine Chouaki.
Suite de notre virée en sol majeur au pays des voix de RFI, celui qui est assis en face de moi aujourd'hui et qui tient en haleine quotidiennement, qui vous tient en haleine quotidiennement dans plein sud, est un homme d'étoffe, un charmeur de serpents et un bouffeur de 136, puisque le studio 136 dans la maison de la radio est le QG de plein sud, où l'on consomme adrénaline, événements culturels et substances en tout genre. Hein, je ne comprends pas toujours tout, mais je rigole beaucoup en écoutant. Mais Amobe Mevege, parisien, camerounais et sentinelle de la diaspora mondialisée, est aussi un visage, vu à la télé sur TV5 notamment, une plume, lue dans Afrobeat, son magazine, et un charisme identitaire qui peut le faire passer parfois pour un extrémiste de l'africanité. Un petit sourire comme ça.
C'est génial.
C'est bien.
Bonjour.
Bonjour à Mauvais Mélégué.
Merci Yasmine, j'étais impressionné par le lancement.
Je peux encore vous souhaiter bon anniversaire à Mauvais, puisqu'il n'y a pas si longtemps vous avez soufflé les bougies de 15 ans de plein sud.
Ouais. 15 ans de tranche de vie, c'était exceptionnel.
15 ans, c'est l'adolescence, c'est la rébellion.
C'est comme pour les animaux, c'est l'âge de la maturité, parce qu'un chien qui a 15 ans, il est presque vieux déjà.
Ouais, en radio, c'est presque exceptionnel. Je ne sais pas si la métaphore n'est pas dangereuse.
C'est étant le meilleur ami de l'homme, je me dis que peut-être je pourrais y aller dans cette métaphore un peu canine. Mais 15 ans, c'est énorme, c'est une tranche de vie, c'est un privilège sur une radio que j'adore, qui est RFI, qui touche des millions de gens complètement différents. Mmh. Et un continent qui est très peu facile à impacter, l'Afrique. Donc c'est un vrai privilège. Je l'ai toujours vécu comme tel.
Au bout de 15 ans, la fraîcheur est intacte, c'est évident. Et c'est toujours possible en plus de se perdre dans les couloirs de RFI. J'ai pu le constater en écoutant le début de l'émission.
Oui, je me paume.
En revanche, je pense que vous n'avez pas perdu votre objectif, Amobe, à savoir marier le professionnel de la radio que vous êtes et le militant. Est-ce que c'est comme ça que vous concevez cette émission?
Je ne pense pas, non. Je peut-être, alors le militant pour plein de choses, mais c'est vrai que je considère que le métier de journalisme, moi j'ai beaucoup de respect pour la profession de journaliste, mais très peu pour la majorité des journalistes. Parce que justement, je pense que beaucoup ont plutôt signé le serment d'hypocrite, parce qu'en l'occurrence, la déontologie, etc., sur des thématiques que je connais moi un petit peu mieux que d'autres, je vois bien qu'ils ne la respectent pas, cette règle de déontologie. Mmh. Et c'est ce qui fait peut-être de moi quelqu'un qui en d'autres termes, je pense que l'objectivité, c'est la somme de toutes les subjectivités. Je ne crois pas du tout à l'objectivité claironnée dans les écoles de journalisme. Je pense que l'affectif, le lieu où l'on est, le champ civilisationnel auquel on appartient, eh bien, incline les gens à avoir une certaine manière, parfois, de traiter l'info. C'est ce que je constate. Donc, alors, si être militant, c'est essayer de rétablir un peu un déséquilibre par rapport à l'Afrique, je suis militant.
Une définition à la Amobe Mevege du journaliste, ouais, je la cautionne, commentaire personnel, donc justement. Vous vous sentez, je pourrais le dire différemment, militant, je sens que ça vous chatouille un peu.
Non, pas
vous santé sentinelle de cette diaspora mondialisée dont vous parlez
Je sens que je suis un privilégié. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai jamais rien fait d'autre depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, même si j'ai fait des études universitaires, etc., et même un petit peu plus. D'avoir été un privilégié d'être sur des médias qui représentaient des gens qui n'étaient pas, entre guillemets, catapultés. Et encore, à plus forte raison, sur une onde internationale comme celle d'RFI. Alors, est-ce que je me lève tous les matins en me rasant, en me disant « Ah, il y a quelque chose d'obamien chez toi, formidable. Non, mais par la force des choses, je suis peut-être l'un des rares Africains que la jeunesse africaine a vu grandir à la télévision.
Un privilégié et un messager ?
Je pense que lorsqu'on fait 15 ans au quotidien sur une radio comme RFI, on essaie, en tout cas moi mon credo ça a été de montrer l'Afrique telle qu'elle est, telle que je la ressens. Moi je suis un parfait métis culturel, je revendique mon appartenance mondialisée et j'en ai assez d'entendre les gens dire oui mais ça c'est à l'africaine. Je bosse avec des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines et je vous assure, je ne comprends pas cette locution.
Donc pour vous déstigmatiser,
tout à fait.
On va commencer, pardon je vais prendre l'accent moi aussi, je vais faire une rechute. Identitaire.
Bah allons-y, allons-y.
Vous savez que dans ce portrait d'un sol majeur,
c'est trop blanc de me noyer dans vos yeux, Jasmine.
Vous avez le rôle, là, je suis mal barrée. Vous avez le droit à votre petit quart d'heure musical dans cette émission. Je vous ai demandé de choisir 5 morceaux qui ont jalonné votre vie.
Ça a été dur.
Et alors pour le premier morceau, justement, ça a été compliqué de choisir. Vous n'avez pas choisi. Donc on va, j'allais dire, s'offrir, j'allais dire un autre mot, mais ce n'était pas le bon. Mireille Mathieu, Michel Delpech, Maï Brandt et Claude François. On vous a fait un petit paquet cadeau signé Guillaume Ploquin, le réalisateur.
C'est intime.
Et on a rajouté The Eagles, puisque vous nous avez dit « I want the Eagles ». Ça correspond à quoi, ce petit paquet cadeau là?
Ça correspond à un truc qui est incroyable, c'est que lorsqu'on a des origines lointaines, on porte un masque social et qu'on est a priori endigué vers des goûts musicaux. Donc j'ai voulu prendre le contre-pied.
Mais c'est pas un contre-pied, vous êtes vraiment...
Mais
vous avez baigné dans cette culture musicale.
Pas un contre-pied pour moi, un contre-pied pour ceux qui présument connaître qui je suis.
On ne vit pas sans se dire adieu. On ne vit pas sans mourir un peu. Sans abandonner pour aller plus loin. Sur son chemin, quelque chose ou quelqu'un.
On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie. Il a fallu que je t'accuse.
Pour évoquer votre...
Me faire pleurer.
Vous faisiez les chorés là sur le lundi au soleil de Clo-Clo.
Mais exactement, moi j'ai débarqué du Cameroun, de Yaoundé, en 1973, un an avant la carte de séjour instituée par Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, en 1974. Et donc ça, c'est les musiques qu'on entendait, nous, quand on débarquait. Ça, c'est une partie de moi. Mais c'est l'autre partie, c'est la partie africaine. Il y avait aussi donc, les Jackson 5, il y avait tout ça côtoyait Franco Luambo Makiadi, il y avait du Oum Kalsoum à la maison. C'est un vrai bouillon de culture, c'est un truc incroyable.
Voilà, donc petit best-of de ceux qui écoutaient le le petit Mévégué, fin des années 70.
Avec Nana Mouskouri, vous avez failli me faire pleurer.
Je sais, je sais. C'est pas Nana Mouskouri, c'est Mireille Mathieu, mais ça, c'est pas grave. C'est pas la différence, je suis... Attention, oh là là, attention, faudrait réviser ses classiques. Donc ça, c'était du temps où il ne s'appelait pas encore Amobé. Et là, je crois que ça sent la question en sol majeur.
Avez-vous déjà eu le désir de changer de patronyme ?
Car je me souviens vous avoir appelé Alain pendant quelques années. Alors pourquoi Alain est-il un jour devenu Amobé ?
Parce que ça a été une construction, ça a été un chemin. C'est-à-dire que moi, ma construction imaginaire, elle passait par la télévision. J'avais dans ma besace ma partie africaine et ma partie occidentale que je découvrais. Sauf qu'au fil des ans, je me suis rendu compte que la République, je ne suis pas en train de donner un coup de canif dans les chevilles de Marianne, mais la République a un peu épuré la partie africaine de ce que j'écoutais moi à la maison.
Comment c'est pour ça, ça
que c'est-à-dire que, en fait, moi, je ne retrouvais pas à l'école ce que moi, enfant, je nourrissais à la maison. C'est-à-dire que nous, on était des éponges. On ne voyait pas le monde en noir et blanc et ça a été très violent. Et donc, j'ai eu une discussion avec mes parents pour leur dire, mais attendez, mais est-ce que moi, je peux... je comprends, j'ai été baptisé, on m'a pas à l'insu de mon plein gré, je suis entre guillemets endigué dans un champ civilisationnel, mais quelque part, une partie de la société ne reconnaît pas cette partie africaine de moi. J'ai une discussion avec ma mère en disant, écoute, voilà, je pense qu'il faudrait que je prenne un prénom qui ressemble davantage à ce que je projette, puisque en fait, la société me renvoie systématiquement vers autre chose qui ne ressemble pas à Alain. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire.
Oui, c'est assez clair. Pour,
Et donc, à un moment donné,
vous êtes passé aussi par le changement du costume. Vous avez abandonné la tenue européenne, vous avez poussé le bouchon jusque-là.
Mais c'est la société qui m'a poussé vers ça. Je n'exagère pas. Chaque fois quand on vous dit, mais oui, mais il faut que tu sois intégré. Mais intégré à quoi ? J'aurais pu vous passer Gotenner. Pourquoi on nous parle tout le temps à nous d'intégration ? Pendant combien de temps à perpétuité faudra-t-il légitimer qu'on ait des citoyens à part entière dans ce pays ? Et qu'à la limite, je suis beaucoup plus intégré que la majorité des Gaulois de souche. Et donc, à force de vouloir me justifier...
L'Africain que les autres voyaient avant que vous ne vous appeliez Amobé.
Exactement, c'est-à-dire qu'à force de vouloir dire « Mais attendez, mais je suis une partie d'ici, pourquoi vous voulez absolument... »
Mais est-ce que ça veut dire que l'habit fait le moine, pour reprendre l'histoire du
vêtement ? Non, mais c'est la démonstration qu'on n'a pas besoin de se travestir pour être soi-même. C'est-à-dire que ça a été un équilibre pour moi.
Ce que vous faites, Amobé, vous vous travestissez.
Mais pas du tout, regardez, attendez, je porte aujourd'hui... Non, je porte des chaussures américaines, là. C'est des crocs. J'ai un pantalon c'est la mondialisation. Ça, c'est un boubou d'Algérie. Au contraire, nous sommes la tolérance et l'ouverture même, mais c'est par contre, je ne fais pas un procès d'intention, il faudrait que j'appelle M. Carcassonne, qui est l'un des plus grands constitutionnalistes français, pour qu'on voit si on ne peut pas réviser l'un des articles de la
Constitution.
Qu'est-ce
que vous changeriez comme article ?
Non, je ne me permettrai pas, sauf crime de lèse-majesté, mais je dis que tous...
petit coup de canif, là.
Non, la Constitution reconnaît les citoyens et pas les communautés. C'est un super idéal projeté. La Révolution française portait un merveilleux idéal. Sauf que dans le concret des choses, je vous le dis... On vous renvoie toujours à vos origines.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir quitté une case pour en réintégrer une autre ?
Absolument pas. Je suis justement l'un des jalons de cohésion sociale. C'est-à-dire que moi, je suis un parfait métis culturel. Je peux parler aussi bien avec un énarque. Et justement, je peux parler avec la France d'en bas, l'Afrique, avec des ch'tis. J'ai grandi en Picardie chez les ch'tis, ça ne m'a pas posé le moindre problème.
Et fondamentalement, ça a changé quoi de vous appeler Amobé, de ne plus vous appeler Alain ?
Ça a changé que j'ai pu me justifier. J'ai plus eu à me justifier, c'est-à-dire que d'un seul coup, que je porte un costume trois quarts ou que je porte un boubou, on avait toujours tendance à me renvoyer vers le boubou.
Vous êtes dans le cliché qu'on attend de vous.
Voilà, c'est-à-dire que je me justifie plus. Je mets le cliché qu'on a. Je me suis entre guillemets, mais c'est plus une réappropriation puisque c'est une partie de moi-même. Je me suis mis dans la case dans laquelle on m'a endigué.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
Ce que je sais de mes ancêtres, c'est une question très métaphysique. Alors, il y a plusieurs ancêtres. Tous les Africains vous diront que les ancêtres, ce sont tous ceux qu'on a aimés. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'arbre qui gémit. Ils sont dans le bois qui frémit. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Les morts ne sont pas morts. C'est Birago Diop. C'est les contes de Mamadou et Binetta.
Je veux faire partie de votre famille. À l'origine, vous êtes de quelle... c'est l'ethnie Fang chez vous ?
Oui, je suis né au Cameroun, dans une ethnie qu'on appelle les Bétis, qui appartient à un grand groupe. Mmh. Originellement, nos ancêtres, lisés chez Anta Diop, sont les Égyptiens anciens. La première civilisation au cœur du continent africaine, donc égyptienne antique. Afrique. Et donc, il y a eu des migrations, un peu comme l'Égypte a favorisé les migrations. Les gens sont descendus de la péninsule arabique et ont occupé le nord du continent, etc. Et donc, par voie de conséquence, les autres sont descendus vers le sud. Et donc, jusqu'à la Nubie, mes ancêtres les plus lointains seraient donc les Égyptiens anciens.
Appartenant, pardon, encore pour le mot catégorie, mais à la catégorie des montagnards.
Oui, je suis un montagnard, puisque si vous allez à Yaoundé...
Ça se voit pas beaucoup, ça, hein.
Mais si, je suis un montagnard, je vous assure. Ça, c'est les accents des Yaoundé. D'ailleurs, je salue Zaccarino, mon papa, depuis que le mien a rendu l'arme à gauche et qu'il a rejoint la case des ancêtres, c'est mon papa de substitution à Yaoundé. Donc, c'est lui qui parle comme chez le papa d'Yannick Noah. Donc, c'est nous qui parlons comme chez les bétis, les fans, qu'on retrouve donc en Guinée équatoriale, au Congo, une partie, mais surtout au Gabon et au Cameroun.
Et dans la famille Mévégué, moi, je vais demander le père, qui s'appelle Ambroise.
Il s'appelait Ambroise, tout à fait. C'est marrant, hein. Comment un bonhomme de la forêt tropicale...
Qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Autodidacte ?
Autodidacte, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui est orphelin très tôt de mère et qui a grandi par la force des choses, qui est monté à Douala, qui a passé son permis, qui a été un autodidacte, qui a fait des affaires, qui a gagné tout de suite beaucoup d'argent, avec des fortunes diverses, qu'on a perdu aussi, etc. Enfin, il avait
choisi pour être
qualités.
Chef de clan.
Adoubé par les siens, parce qu'en fait, il n'était pas le plus ancien des enfants de son père, mais par la force des choses, étant le plus, entre guillemets, incarné matériellement, c'est lui qui a pris la... C'est comme ça dans les familles de l'altérité mondialisée, celui qui s'en sort le mieux, eh bien, tire les autres vers le haut.
Alors votre mère n'était pas en reste, Marie-Thérèse ?
Absolument. Comme en France, il n'y a pas si longtemps, on préférait miser dans les familles sur les garçons, en leur payant des études, plutôt que sur les filles, parce que les filles vont aller en mariage, donc ce n'est pas la peine de miser. Et elle a été une exception exceptionnelle. Ce qui fait d'elle l'une des premières érudites des années 60 et qui a réussi un concours international de sage-femme à Clermont-Ferrand, où elle est arrivée deuxième de sa promotion et dit qu'ils ont un peu, à un demi-point, elle était première.
Alors vous, Amoubé, vous êtes né en 68.
Petite patou.
Ah, Yaoundé. Mais vous ne le faites pas. Vous y restez jusqu'à l'âge de 5 ans. Est-ce que c'est suffisant pour y graver le prénom sur les arbres ? Enfin, ça, c'est un jeu typiquement français ou très, je sais pas, très occidental.
Mais
en
moi,
tout cas.
Je me souviens
Est-ce
très bien.
Est-ce qu'il y a des empreintes de cette période-là ?
Absolument. Je me souviens très bien du jour de mon voyage. Je me souviens de tout, comme s'il y avait un truc un peu inconscient qui s'opérait à ce moment-là. Je signale aussi que je ne parlais pas ma langue quand je quittais le Cameroun natal et que je me la suis réappropriée en francité. Mm-hmm. Comme quoi c'est possible. Tout ça par rapport à des hommes politiques qu'on entend régulièrement. On parle toujours pour nous par procuration. Julien Drey, un jour, sur e-télévision, dit il n'y a pas d'autorité parentale dans les familles africaines. Est-ce que M. Julien Drey a été dans toutes les familles africaines pour venir parler généralement des familles africaines, comment on chosifie l'Afrique ?
Donc au départ, vous étiez un petit garçon tout à fait tranquille, est devenu un homme en colère, un peu, un mobé.
Pas
c'est
du
comme
tout.
Ça.
Passionné.
Ouais, on va dire passionné si vous voulez, avec des.
Mais vous auriez pu me brancher sur la question de la lutte contre la pauvreté.
Non, mais je vous branche juste sur la question de l'enfance à Yaoundé et je me retrouve avec Julien Drey dans des histoires terribles.
Mais
quand vous arrivez
lié,
à Lyon en 73,
est lié,
c'est vrai. C'est vrai.
Tout est lié.
Un fils de pasteur attend sur le pick-up d'un sol majeur. Vous voyez de qui je veux parler ?
Un fils de pasteur attend sur le pick-up d'un sol majeur.
Marvin Gaye, votre copain.
Ah, Marvin Gaye.
Oui, vous l'avez alors, programmé avec la chanson Yesterday.
Marvin Gaye, Yesterday, pourquoi ? Parce que j'avais pas le temps de passer les Beatles. Et je vous le dis, on écoutait les Rolling Stones, on écoutait tout à la maison.
Donc c'est deux en un, là.
Et donc, c'est une reprise des Beatles par Marvin Gaye. Ouais. Et j'associe vraiment deux entités musicales que j'aime particulièrement. Oh, yesterday. All my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, people ain't half the man I used. There's a heavy, heavy shadow hanging over me. Yesterday came all too suddenly. Now, oh, why did she have to go? I don't know. Tell you, I don't know, the little girl wouldn't say. Must have said something wrong. Now I long, long, long for yesterday. Oh, talking about yesterday. Love, love.
play. Now I need a place to hide away. Lord, I believe now, yesterday.
Marvin Gaye avec Yesterday, une chanson choisie par notre confrère Amobe Mevege à qui l'on rend hommage aujourd'hui suite à sa disparition brutale cette semaine. Retour en arrière dans cet en sol majeur concocté il y a 11 ans où je le décrivais comme un enfant du Cameroun et de la Picardie. Pour moi, c'était un beau gosse, plein comme un œuf, d'humour et de conviction. Amobe Mevege, l'âme de plein sud au moment de cette conversation, et plus encore au fil du temps et de ses engagements, était une star en Afrique, tout en restant l'enfant du pays. Une personnalité qui rayonnait tous azimuts sur les réseaux internationaux francophones, CFI TV5, MCM Canal+, RFI et bien sûr France 24. Donc radio, télévision, presse écrite, production aussi. Je le taquinais d'ailleurs en lui disant qu'avec un CV pareil, il allait finir ministre de la Culture. Dans la vie, Amobe aimait les gens, les habits traditionnels de tous les jours. Il aimait poser ses yeux sur l'architecture marocaine et se souvenir aussi de ce temps qu'il aura passé avec Aimé Césaire et Myriam Makeba. Mais par-dessus tout, il aimait ce mélange de chaleur et de vent que tu ne trouves qu'à Dakar. Mais par-dessus le par-dessus, il aimait réécouter la bande-son de ses jeunes années devant la télé et dans un fauteuil radio.
Eh bien, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour vous présenter notre Mardi Cinéma. Alors, nous commençons, vous le savez, traditionnellement avec ce qu'on appelle la mosaïque ou les petits carreaux, c'est-à-dire un film classique noir et blanc que vous allez reconnaître très vite, j'en suis sûr. Regardez-le, reconnaissez-le.
Négro, comment tu m'appelais là ?
Comment ça, comment je t'ai appelé ? Je t'ai appelé ta couleur, négro.
Alors écoute, de une, je ne suis pas ton négro. De deux, je ne suis pas un négro.
T'es quoi alors ?
Je suis tout le contraire de toi. Ici, nous sommes en France, d'accord ? Dans une république. Ce n'est pas l'Afrique ici. Ce n'est pas la jungle, d'accord ?
C'est très difficile de trouver une star du fromage. Il ne faut pas être un fromage.
Trop banal.
Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité.
C'est génial.
Vous écoutez la télé donc sur RFI. C'est une bande-son réalisée par notre réalisateur Guillaume. Une réaction à Mobé, à toutes ces voix qui vous ont sauvé.
C'est Pierre Tchernia qu'on a entendu au départ. C'est lui qui m'a donné envie de faire du cinéma.
La vraie révélation, c'est Racine, l'extrait du téléfilm tiré du livre.
Ah ouais, ça a été un choc. Il y a eu avant ça, il y a eu un bouquin qui m'a été prêté. C'était L'Enfant Noir de Kamar Alaï. Ça cassait pas des briques, mais ça a été juste après. Non, mais le vrai truc, c'est d'abord Tarzan. Il faut qu'on revienne à Tarzan parce que sinon
alors,
on va pas comprendre.
On est dans la
Tarzan,
cour de récré.
C'est fondateur. Tarzan, c'était Johnny Westmiller. Moi, je suis l'aîné à la maison, donc je m'identifiais à Johnny Westmiller. Sauf que quand j'allais le mercredi jouer avec mes potes au football et le jeudi que je retournais à l'école, on me disait « Mais non, tu ne peux pas être Tarzan, tu es Cheetah ou Timba Omgawa. Ça paraît con, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est là que j'ai pris conscience que je n'étais pas blanc. Et donc, à partir de là, le chemin s'est fait. Il y a eu les westerns, il y a eu tout ça. C'est vraiment par la télévision que j'ai eu, entre guillemets, conscience politique. J'avais quoi, 7 ans, 8 ans, mais je ne savais pas mettre des mots autour de ça. Mais je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'était pas normal.
Et puis alors, sinon, au niveau du scénario, parce qu'il est vraiment musclé, ce scénario, vous avez d'abord donc choisi de devenir Johnny Weissmuller, avant de désirer devenir un deuxième Spike Lee. C'est sérieux, cette histoire de cinéma.
Ouais, je fais une école qui s'appelle le Conservatoire Libre du Cinéma Français, qui est une école privée.
Un cours intitulé Nola Darling, qui était d'ailleurs un pastiche de Lola Darling, de Spike Lee, qui était bien noté.
J'ai eu un premier prix en réalisation, cinématographique, en réalisation. Ça ne m'intéressait pas d'être devant la caméra.
Bon. On ne va pas arriver à tout dire, à Mobé. Il faut que vous le sachiez. Quand on a une multiple vie comme
ça. J'aime bien pleurer. Musique extrêmement
avec Fela, justement. Fela, ça va aller. Créateur de l'afrobeat et pourfendeur des régimes militaires, qu'a connu son pays, le Nigeria. Je ne sais pas ce qui vous touche d'ailleurs, si c'est plus le musicien ou le pourfendeur.
C'est la capacité d'un artiste comme Bob Marley, comme Mohamed Ali. Ils sont très rares, des gens qui ont porté au rang d'art leur combat et au rang de combat leur art. C'est extraordinaire. Fela, combattant fougueux pour la liberté, l'afrobeat, une musique pour libérer tous les peuples opprimés, ça, c'est de la maestria.
Vous êtes sur RFI, en sol majeur avec Amobe Mevege.
Pacha toma fino é o gelo e je que lo chepe o chacara o lo gelo Tu baboni chacara pade Pacha toma fino é o gelo e je que lo chepe o
chacara o lo geni
chacara o lo geni
chacara
o lo geni I go beat you, I go nearly kill you. La Shakara. I go beat you, go be like you get accident. La Shakara. You don't know me. La Shakara. Wait, make I come out my dress. La Shakara. You see, enough you do nothing. La Shakara Loje. We got a song for them. We just sing them like this. We go say, Waje baba laia ah ironi o koleja o jelo yo kila shepe o
shakara o lo jeni
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 Fela en sol majeur dans le programme d'Amobe Mevege, enfant de Starsky et Hutch.
Fela à Nicolapo Kouti.
Pardon Amobe. La seule chose dont je suis sûre, c'est que vous appelez bien Amobe Mevege, donc enfant de Starsky et Hutch et de Racine, mais également de Yaoundé et de la Picardie, ce qui pose parfois des problèmes d'alphabet.
Dans quelle langue parlez-vous à un bébé ?
La bébologie.
C'est comment ?
Mais moi, j'adore inventer les mots parce que je trouve que les mômes sont super inventifs sur les mots, les néologismes. On ne devrait pas enfermer la langue, si tant est qu'on estime qu'elle reste dans l'orthodoxie de la création des mots.
Un amoureux de la langue. Hein.
Mais moi, j'adore, mais il y a toujours des esprits chagrins pour dire « Oui, mais ça ne se dit pas comme ça !» Mais la langue, elle s'appelle bien vivante, c'est pour ça qu'il faut la faire vibrer. Et donc, moi, je parle à mes enfants, je suis la mère de mes enfants est sénégalaise. Je raconte un peu ma vie, musulmane.
C'est
je suis
le but du jeu.
Parrain d'enfants juifs. J'ai été baptisé à l'insu de mon plein gré et mes enfants, je ne les ai pas baptisés. Je leur ai pas dit. Voilà, je pense qu'on devrait tous faire la même chose. Donner le temps aux enfants de découvrir toutes les religions et leur dire voilà, choisis. Et c'était quoi la question ?
J'étais en train de me poser, je me demandais si vos enfants ne font pas du tout les mêmes choix que vous, vous serez toujours porte ouverte.
Oui, non, sincèrement, on est vraiment, je pense, sur la même ouverture d'esprit dont moi j'ai bénéficié, puisque j'ai grandi, donc je vous le dis, dans un environnement qui était extrêmement ancré dans l'Afrique. Ma mère a toujours mis des boubous, a toujours fait des nattes et elle se faisait toujours chambrer, je me souviens. Alors je peux donner une anecdote aussi qui me fait marrer, c'est que quand je suis arrivé en 73-74, en France, ma mère portait mon petit frère avec des pagnes dans le dos. Et tout le monde se foutait de notre gueule quand on passait dans la rue. Quelques années après, que ne vois-je donc pas dans les publicités ? Les Blancs mettent des kangourous, des trucs comme nous. Et je dis, mais attendez.
C'est l'autre côté.
Oui, mais s'ils nous ont pourri la vie pendant des années, et ça m'a bien fait rigoler.
Donc, langue maternelle, au départ, c'est quoi ?
Le français. Ma langue affective, celle dans laquelle je réfléchis, c'est le français, puisque je me suis réapproprié le bétis tant bien que j'ai
C'était la première vraie langue maternelle perdue puis retrouvée, ça c'est quand même...
Yavol.
Mystique ça.
C'est naturel mystique, comme dirait Bob Marley.
Non mais comment le processus des retrouvailles s'est fait ça, c'est...
Mais parce que sans doute dans mon inconscient, j'avais cette langue qui était profondément innervée, et donc je suis allé la rechercher. J'ai l'impression d'être sur un divan psychanalytique, je ne sais pas moi-même.
Et on va pousser plus loin alors sur le divan, les accent, parce que je vois que vous, depuis le début de la conversation, là, ça tente de temps en temps. Quand est-ce qu'il se présente, les fameux accents ?
Ben, en fait, c'est toujours cette schizophrénie qui existe quand on est des parfaits métis culturels. Moi, j'ai grandi chez les Picards et parle tout comme chaud, tu vois, à Mango. Et en même temps, d'être africain. Et quand je parle avec mes oncles, par exemple, si je parle avec un truc... Bon, tonton, est-ce que tu penses que tu peux ? Il ne comprend pas. Si je lui dis, tonton, est-ce que tu penses que tu peux ? Il comprend. Donc on s'adapte. C'est automatique. On ne cherche pas, on ne fait pas semblant.
Professionnellement, y a-t-il des situations où vous avez ressenti de l'injustice ?
Professionnellement ? Vous avez fait exprès de me poser cette question.
Pas du tout.
D'abord, je voudrais dire que j'ai une très haute estime de moi-même. Je trouve que je suis sévèrement doté par la nature. Je suis beau, intelligent.
Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais...
Je n'ai pas... De mon esprit.
Ça fait
envie. Je suis un spiritualiste et non pas un matérialiste. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours... je suis allé au plus... Je disais la dernière fois en discutant avec Christine O'Crane que j'ai la chance d'être le seul au monde à avoir fait tout l'audiovisuel extérieur francophone. Pour faire comprendre le message que je vais faire passer, je vais me mettre dans la peau d'une femme. Je pense que les femmes, lorsqu'elles parlent de harcèlement sexuel, ça fait marrer les hommes. Lorsque les femmes disent que oui, mais j'ai bien senti dans son regard ce connard, qu'il ne me donnait pas cette place parce qu'il sent bien, ça fait marrer tout le monde. Mmh. Et bien moi, c'est pareil. Il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer, mais on sent bien à un moment donné que le plafond de verre existe.
On sait quoi ? C'est la place des Noirs dans les médias, par exemple ? Ça, c'est un sujet qui fâche pour vous ?
Je trouve que c'est inadmissible qu'on soit encore en 2009 en train de créer non seulement des CV anonymes pour les gens. Est-ce que c'est les valeurs de la République ? Qu'on dise à des gens, oui, mais tu sais, il faut que tu te caches et après, on verra si on peut te prendre. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Et en même temps, il y a toujours cette dichotomie, c'est qu'on a le droit de fermer sa gueule et de se taire. C'est-à-dire que si on le dit, on dit, mais si vous n'êtes pas content, mais rentrez chez vous. Il y a des Noirs qui sont français depuis bien avant les Corses et on leur pose pas la question. Donc à un moment donné, c'est soit vous la fermez, soit quand vous dites un truc, on dit, mais il est communautarisme, mais il n'y a pas plus tolérant, plus ouvert que moi. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, j'ai appris l'allemand, je suis allé dans des endroits pas possibles, j'ai fait le tour de l'Europe, je suis allé en Chine. Combien d'années faudra-t-il que je fasse des stages pour être intégré ?
Monter un magazine Afrobiz qui parle de la culture noire africaine, c'est pas un geste communautariste pour
c'était,
vous ?
Non, c'était une réponse à un manque. Si le Nouvel Observateur, si Paris Match, si toutes les chaînes faisaient étalage de toute la diversité, on n'aurait pas besoin de créer des canards qui nous ressemblent.
En même temps, le monde change, on va dire, depuis novembre dernier. Alors, c'est peut-être pas le monde français, mais maintenant, on sait qu'on peut être noir, médiatisé et puissant aujourd'hui, et populaire en plus.
Alors, je parle aux conseillers spéciaux du président de la République, Obama Mobé que je suis, à toute l'étoffe pleine et entière pour, non pas, je n'ai pas la nationalité française, donc je ne peux pas occuper de Marocains, particulier, mais je pense de toute manière que je travaille déjà avec la société civile profonde. Là, je reviens, je vous l'ai dit, c'est ma dîme citoyenne. Tous les ans, je vais au cœur du Massif central profond avec des paysans pour qu'on travaille sur la qualité de l'eau, parce que c'est le château d'eau de la France. Vous savez que le réchauffement climatique, vous auriez pu me brancher dessus, le réchauffement climatique, la lutte contre la pauvreté, c'est aussi des trucs qui me touchent autant.
La chose sur laquelle je vais vous brancher, c'est la nationalité française. Vous n'avez pas la nationalité française, est-ce que c'est un choix ?
Non, c'est plus compliqué que ça. Ma mère, par exemple, toutes celles et tous ceux qui sont nés sous l'ancien empire. Moi, j'ai un arrière-grand-père qui a fait le débarquement de Provence. Un Bassangessa, il s'appelle. C'est un arrière-grand-père. On leur demandait pas leur avis. Ils étaient français. Et ma mère, par exemple, quand elle n'a pas été naturalisée, elle a été réintégrée. Et nous, on a juste eu des ballottements. On est comme dans plein de familles. Il y avait certaines personnes qui avaient fait la demande. Donc, ils ont des frères qui sont français, d'autres qui ne le sont pas. Et moi, je suis pas français. J'ai
et
ma carte de séjour.
Vous souhaiteriez
je,
ou pas
je n'ai pas fait de demande. Donc, je suis un citoyen.
Vous faites pas de demande parce que vous avez pas envie ou parce que vous la montagne administrative qui se profile dissuaderait plus d'un.
Je suis c'est valable aussi bien pour l'Afrique. Moi, je revendique un passeport pour toute l'Afrique. Je ne veux pas m'enfermer dans les nationalités. J'ai un passeport camerounais, mais il aurait pu être congolais ou belge. Je n'ai pas fait de démarche parce que je me considère vraiment comme un citoyen du monde et j'ai ma carte de séjour, je pointe comme tout le monde.
Est-ce qu'avant de manger, vous bénissez la nourriture ?
Avant de manger, je verse toujours un petit peu d'eau pour les ancêtres, oui.
Et alors, pour apaiser les esprits, donc le mot magique, vous mangez quoi ? Qu'est-ce que vous aimez bien avoir sur la table ?
Je mange plus de viande depuis 7 ans.
C'est votre religion qui vous l'impose ?
J'avais pas de religion. Je vous l'ai dit, je suis pas devenu anticlérical, mais j'ai passé plusieurs années de ma vie dans un pensionnat du Sacré-Cœur, chez les jésuites, à Reims, avec l'élite de la bourgeoisie champenoise, où les parents vous voyez les enfants, etc. Donc je peux pratiquement lire la messe, et c'est pour ça que je suis parti en courant.
Et que vous êtes vacciné, et que vous êtes un adepte de la laïcité aujourd'hui.
Absolument, mais je respecte les convictions, je suis entouré de gens, par exemple mon père était un pieux, je soutiens les œuvres de qui veut, etc. Mais pour moi, je pense que la cosmogonie que je respecte, c'est l'ancestralité ancestrale de l'esprit, c'est-à-dire que plus fort que la matière, l'esprit. Je suis un spiritualiste. Je pense qu'il y a des gens qui sont morts, qui sont devenus des ancêtres. Ils sont bien plus présents, parce qu'on pense à eux tous les jours, que des gens qu'on côtoie tous les jours.
Bon, je ne vais pas vous brancher sur la question du voile, sinon je ne m'en sors pas.
Hein, comme vous voudrez.
Je vois de la fumée au-dessus de la tête, là.
Non, pas du tout.
Bon, dans votre programme, il y a, ça n'étonnera, je suppose, personne, la mère de l'Afrique, que vous avez eu d'ailleurs la chance de rencontrer assez peu de temps avant sa mort, Myriam Makeba.
C'est étrange parce que la première fois que j'ai rencontré, j'avais 17 ans, c'était sur les Champs-Élysées. Je lui ai demandé de me faire une dédicace, elle m'a dit non. Et je ne savais pas que quelques années plus tard, j'allais l'interviewer et que j'allais passer plusieurs fois des heures en télé, en radio avec elle. Et puis surtout recueillir quasiment un testament pendant des heures à Libreville qu'elle m'a confié sur mon caméscope personnel.
Au-delà de ce qu'elle incarne sans doute pour vous, c'est-à-dire un modèle, est-ce que vous avez eu le temps de devenir amie ?
Amis, non, on ne devient pas ami avec une légende pareille, mais un proche intime au point qu'elle m'ait demandé à moi et à Théophile Boumabissa d'organiser son dernier concert à l'Olympia, alors qu'elle passait sur CNN et partout, qu'elle disait « Dis aux Africains que je veux vraiment que vous soyez unis ». C'est quand même quelqu'un qui a eu un passeport
pourquoi
algérien.
Vous pourquoi vous
ben, allez lui demander si vous croyez à la force des
ben
ancêtres.
Vous n'avez pas un début de réponse
ben, ce serait vaniteux de ma part, mais je l'ai pris comme
un
privilège.
Que la suite.
Non, mais moi j'ai une très haute estime de moi-même, parce que je pense que si je ne dis pas ce que je pense de moi-même, d'autres le diront en beaucoup moins bien. Donc je préfère le faire moi-même. Mais Myriam Makeba, je pense qu'elle a senti que je me sentais héritier moi-même de tout ce qu'elle avait posé. After all day hunger.
to love and lion, peacefully sleeping. Way up Kilimanjaro, we made a campfire. Far up in the distance, that beautiful mountain. Drums are throbbing, time to go out hunting, Kilimanjaro. Hello. Kill him. Kill the savage lion before the lion kills you.
Myriam Makeba sur RFI est dans le programme d'Amobé Mévégué, Tarzan pour les intimes, je peux me permettre hein, maintenant.
En tout honneur, tout bien, je ne sais pas dans quelle ordre ça se dit.
Né à Yaoundé, vivant en France comme un citoyen du monde.
Il y a un match entre la France et votre pays d'origine. Pour qui êtes-vous ?
Alors, pour un ancien... Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure que j'ai fait sport-études foot aussi. Je vais rentrer dans le Guinness Book des records. Je suis
Faites pas votre âge, sans doute.
Hein. Pardon ?
Faites pas votre âge, on dirait vraiment.
Vous êtes merveilleuse. Ouais. J'ai fait sport-études foot dans la région Champagne-Ardenne, à Reims, et je voulais devenir footballeur. Et donc, s'il y a un match entre la France et le Cameroun, sincèrement, je serai pour la meilleure équipe.
Oh,
sincèrement,
ça, je vous assure. Vous êtes aussi un peu d'ailleurs.
Absolument, et que Mauville, en fleurs et tout ça. Non, mais je vous assure, demandez à mes frères et sœurs, je n'ai pas de parti pris pour aucune équipe que ce soit. Je serais plutôt, si vous me demandez Pelé ou Garincha, je vous dirais je serais plutôt Garincha que Pelé, mais je m'en fous, honnêtement. Je suis pour le beau sport et je ne suis pas un nationaliste derrière l'équipe du Cameroun parce que je serais Camerounais.
Ce qui est drôle, en revanche, c'est qu'en fouillant comme ça un petit peu dans les articles pour préparer ce portrait, j'ai lu que vous vous présentiez, ou peut-être qu'on vous présente, alors là, voilà, question, comme un journaliste camerounais, ce qui est un peu court quand même dans votre cas.
Peut-être parce que j'ai une nationalité camerounaise.
Oui, mais c'est pas ce qui vous définit, on l'a bien compris, exclusivement.
Non, mais il n'y a pas de mots pour me qualifier.
C'est vrai, comme ça, je vous aime beaucoup.
Ah, vous êtes génial, Yasmine, je me noie dans tes yeux.
Alors, sur les papiers, je sais que c'est pas double nationalité.
Non,
nationalité et culture, c'est
une carte des
séjours.
Un passeport, d'ailleurs, j'en profite pour de votre émission. À chaque fois, je le dis, il serait bien qu'on ait un passeport CEMAC pour que j'évite d'appliquer des visas à chaque fois que je vais dans un pays limitrophe du Cameroun.
Ouais. Vous nous refaites le code Napoléon aussi. Enfin, vous nous revoyez un peu tout là, parce que je sens qu'on est c'est la poussière un petit peu sur les lois, sur
ouais,
tout ça.
Ouais, mais parce que la loi est là pour protéger les plus faibles. Je parle pas de moi, mais parfois elle est un peu inique.
Vous êtes aussi vraiment français, ça se sent, ça s'entend quand il y a qu'à vous écouter. Et vous êtes un enfant de la Picardie même, et
aussi,
du Calvados.
Aussi.
Et vous avez piqué des choses, des codes, des choses de là-bas, par exemple,
l'accent pourri Picard, tu vois. Ouais, c'est Ternier, j'ai grandi là-bas. C'est là-bas que ma maman a pris une maison, plancher des vaches, sage-femme, accoucheuse, comme la mère de Socrate. Et donc, c'est pour ça qu'on avait toujours des enfants blonds aux yeux bleus à la maison qui venaient s'attabler, parce que ma mère, donc, en plein cœur de la Picardie, donnait vie à ses enfants qui, devenus grands, devenaient nos petites sœurs. C'est pour ça que je suis toujours étonné du préjugé, sous prétexte qu'on revendique une part d'africanité, on est anti-républicain. C'est quand même une forme d'intolérance inadmissible, alors que je suis sans doute avec plein d'autres métis culturels qui sont bretons, berbères, etc. Nous, les métis culturels, on est bien plus tolérants que la majorité de ceux qui nous donnent des leçons. Et c'est inadmissible. Donc le Calvados, oui, je pourrais vous parler des Comoville, de Honfleur, de Caen...
Donc il y a de la France profonde en
Exactement.
Vous.
Exactement. Le cidre, j'adore. Le cidre normand.
Où voudriez-vous mourir ?
Tout en haut de l'affiche.
Je ne sais pas si vous avez bien compris la question.
Où voudriez... Oui, mais oui. Où je voudrais mourir ? On ne choisit pas la cabane de son dernier saut dans le grand vide. Et en l'occurrence, je pense que je suivrai les prédictions de mon paternel, qui m'a confié des responsabilités sociales, à savoir assurer l'héritage et le porter, comme lui-même avait reçu cette mission.
Ça veut dire quoi, assurer
en Afrique,
l'héritage?
Ben, s'occuper de la collectivité et assumer quelques responsabilités. Donc en Afrique, au Cameroun.
En pays éton.
Par exemple.
Par exemple,
oh,
non.
On dit éton.
Éton.
Pas éton.
Quand tu veux, hein, parce que moi j'adore ça, c'est vraiment.
Ah, elle me tutoie enfin, ça y est, j'attendais le moment.
On s'est croisés 2-3 fois dans notre vie.
C'est formidable.
Et s'il y avait des petits objets à emporter outre-tombe, ce serait quoi alors?
Un papillon.
Que vous avez dans la main. C'est quoi ce papillon?
Parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il y avait plein de signes qui me renvoyaient vers le papillon. D'abord parce que le premier mot que mon fils a prononcé, c'est papillon, papillon. Il prononçait papillon. Ensuite, la première fois que j'ai été impressionné par quelqu'un, il reste l'une des rares personnes que je respecte vraiment, et là, l'une des rares que je n'ai pas pu rencontrer dans ma vie, c'est Mohamed Ali. Et j'étais au CP, je lisais un texte.
Ex-Cassius Clay, non ?
Ex-Cassius Clay devenu Mohamed Ali, mais je n'ai pas fait exprès. Et donc, je lisais un texte, je suis beau, je suis flamboyant, je suis le meilleur, etc. Je dis, mais qui est ce bonhomme qui parle ? Je vole comme un papillon, je pique comme une guêpe. C'était une guêpe au départ, mais ensuite, j'ai voyé plein de photos avec lui et des papillons. Et puis enfin, je voulais dire que c'est pas parce que c'était la douleur, mais le jour de la mort de mon père, à partir de ce jour-là, je voyais des papillons partout. Et le jour de l'enterrement, il y a des gros papillons. Et comme je savais que personne ne me croirait, j'en ai parlé à tout mon entourage. Et effectivement, je suis suivi par les papillons.
Sans rien fumer, quoi. Sans rien fumer.
Sans rien fumer. Et donc, les papillons sont un peu mon symbole. Réincarnation, légèreté, fluidité, etc.
Longue et belle vie à Mobé.
Merci Yasmine.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci à Mobé Mévégué, c'était cool et pas si facile que ça hein, de vous interviewer, de t'interviewer, etc. Ouh là là. Je vais finir le boulot en disant qu'on vous retrouve dans plein sud après les vacances au Calva, dans le Calvados. Je sais pas, c'est
entre
ça
autres. Entre autres.
À partir du 7 septembre. Et puis on va se quitter avec peut-être le boss de votre adolescence. Je sais pas, je m'avance peut-être, on va voir. Il s'agit de Bob Marley, porte-parole d'un tiers-mondisme mystique. Hein, c'est ça aussi.
On va dire ça, et pareil, un idéaliste avec Redemption Song, j'espère, qui est pour moi la plus belle chanson du monde, qui est à la fois écologiste et révolutionnaire.
Merci Amobé.
Merci Yasmine.
Je t'aime.
Je m'aime.
All pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing?
Affranchissez-vous de l'esclavage mental. Personne d'autre que nous ne pourra libérer nos esprits. C'est ce que dit Bob Marley avec Redemption Song. Et c'était une sorte de mantra pour notre confrère Amobé Mévégué, à qui nous rendions hommage en sol majeur aujourd'hui. Un en sol majeur affectueux. Émission à réécouter bien sûr en podcast sur votre application Pure Radio, à retrouver sur nos réseaux sociaux ou derrière votre poste. Ça c'est chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on se retrouve la semaine prochaine avec Myriam Mihindou. À la semaine prochaine.